parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et tous nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors comme toujours dans l'évangile de Jean, dans les épîtres, c'est à la fois un texte très beau, un peu poétique, presque mystique, et en même temps très, très dense, en fait, un peu difficile à comprendre. Parce qu'en fait, à chaque phrase, il y a une notion importante, avec des mots qui sont vraiment remplis de sens. C'est un texte vraiment concentré. C'est pour ça que je le lis lentement. Il suffit de prendre le premier verset. « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. » Et en fait, avec cette espèce d'entrée en matière, cette introduction, eh bien, on est placé d'emblée face à face à la parole de Dieu. Ce qu'on appelle en grec le « logos ». C'est vraiment cette parole qui vient de Dieu. Et ici, cette parole-là, c'est une personne. Ce n'est pas juste la parole de Dieu. Non seulement cette parole était avec Dieu, mais elle est Dieu. Alors comment une parole peut-elle être Dieu? Ou est-ce qu'on réduit Dieu à une parole? Donc dans l'évangile de Jean, cette parole, ce mot parole, ce mot grec logos, ce n'est pas n'importe quelle parole. Elle désigne en fait une personne. Ce n'est pas juste un mot, c'est une parole créatrice. Et cette personne, c'est celle qui est au commencement, qui est auprès de Dieu, et même elle est Dieu, cette personne. Cette parole, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et là, j'insiste, parce que ce n'est pas simplement, il n'est pas simplement question ici de la parole du Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'on nous rapporte les évangiles. Il s'est dit que cette parole, c'est Christ. Jésus est la parole. Et Jean nous dit que cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Souvent, on utilise l'expression « la parole de Dieu » ou « la parole » pour désigner la Bible. Mais ici, la parole dont on parle, c'est dans un sens spirituel. Ce n'est pas la révélation de Dieu que nous avons dans la Bible, c'est avant tout Jésus, la personne même de Jésus, qui est à la fois celui dont témoignent les Écritures, la parole, et celui qui en est à l'origine, qui en est l'inspirateur. Et Jésus est cette parole qui était auprès de Dieu dès le commencement. Je m'aperçois en lisant ça que c'est très cyclique. Mais en fait, si vous regardez bien le texte de Jean, il est aussi cyclique. Ce qui ne veut pas dire qu'il tourne en rond, mais je pense qu'il tourne autour de cette réalité de la personne de Jésus en tant que parole de Dieu, et que c'est tellement difficile à exprimer avec nos mots qu'on est obligé de tourner autour comme ça. Alors, en quoi est-ce que c'est important de comprendre que Jésus est la parole, que c'est une personne, que ce n'est pas juste des mots? Eh bien, là, c'est important pour notre foi, parce que c'est, au niveau théologique, c'est vraiment le fondement. C'est aussi au niveau spirituel, au niveau de notre vie spirituelle, ce sur quoi on s'appuie. C'est aussi le fondement de notre vie spirituelle. Parce que on est souvent tenté, dans le milieu chrétien, on va dire, et même en dehors, on est souvent tenté, en fait, de faire de Jésus un homme. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte, hein, que Jésus est venu comme un homme. Mais on est tenté d'en faire un homme comme les autres. Peut-être un homme sage, peut-être un grand exemple, quelqu'un de très moral, mais un homme est rien qu'un homme. Et peut-être qu'on est confronté à cette banalisation de la personne du Christ. On en fait un personnage presque un peu historique, plus ou moins, et dont l'existence commence le jour de Noël. Mais quel rapport avec la parole de Dieu dont nous parle Jean ? Eh bien, quand on lit le texte de Jean, on voit les choses tout à fait différemment. En fait, il nous renvoie au commencement de toute chose, au commencement, à l'origine de la création, de tout ce qui est, en disant « au commencement était », on a envie de dire « était déjà la parole ». La parole était déjà là. Et cette parole, elle était déjà auprès de Dieu, et elle est Dieu. Et ça fait vraiment écho avec les premiers versets de la Bible, dans le livre de la Genèse, qui nous dit « au commencement ». C'est une stricte symétrie. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on nous dit même comment. Juste après, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à chaque fois, Dieu dit et les choses sont. C'est sa parole qui est créatrice. Et j'attire votre attention sur Genèse, chapitre 1, verset 2, donc juste après. On nous dit, la terre était informe et vide. C'est le tohu-bohu dans le texte. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La suite.
L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus.
Et juste avant, juste entre les deux.
Et.
Et, voilà, je suis d'accord avec toi, j'ai toujours cru que c'était et. J'ai lu, en recopiant, c'est marqué mais. Et c'est pas grave, je fais la même erreur. Et je pense que c'est significatif. C'est pas juste les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus, et c'est comme ça, c'est les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu plane au-dessus. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? On verra après.
J'ai mis là-dedans.
Et moi, j'avais mis sur ma personne. Tu as ? Moi, j'avais mis. Ça dépend peut-être des traductions. On va creuser ça. Mais j'étais persuadé que c'était effectivement. Donc, Jean nous dit que cette parole, bien tout a été fait par elle. Au verset 3, qu'en elle était la vie. Au verset 4, que cette vie est la lumière des hommes. Vous voyez un peu la cohérence, le rapport entre les deux passages. On voit vraiment le lien. C'est la même parole dont on nous parle, par laquelle tout a été fait. C'est le même esprit qui plane au-dessus des ténèbres, que ce soit les ténèbres de l'abîme de la création au début, ou l'abîme des ténèbres de notre vie sans Dieu. Du coup, notre foi en Christ, notre confiance en lui, notre adhésion à sa personne, pas une théologie, pas une idéologie, pas une religion, à la personne de Christ, prennent vraiment une importance particulière. Le Christ, celui en qui on met notre confiance, c'est celui qui a son origine dans le cœur de Dieu. C'est celui qui était présent au commencement, dans l'éternité. C'est celui en qui réside la vie de Dieu. Et c'est celui en qui est la lumière, qui vient de Dieu et qui éclaire tout homme. Alors c'est très, c'est un peu mystique, c'est presque mystérieux, c'est presque incompréhensible, tellement c'est énorme, tellement c'est immense. Mais c'est un mystère, parce qu'on ne peut pas le comprendre, l'analyser complètement, mais c'est un mystère qui a du sens, c'est un mystère lumineux si vous voulez, c'est pas une question sans réponse. C'est un mystère qui donne du poids à ce « oui » qu'on a dit un jour à Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu ne prend pas à la légère quand on se tourne vers le Christ. Parce que cette personne, cet homme, eh bien, en fait, c'est bel et bien son Fils unique. C'est bien, bel et bien celui qui s'est incarné dans l'humanité par amour pour nous. Et vous allez me dire, quel rapport avec Noël ? Eh bien, justement, c'est ça, Noël. C'est ça, Noël. C'est vraiment l'incarnation de Dieu. Au verset 14, Jean nous dit, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est la parole qui devient homme. Alors Noël, pour ce que vous le savez, c'est dérivé du latin natalis, qui veut dire naissance. Donc à Noël, on fête bel et bien une naissance, celle de Jésus de Nazareth, celle d'un homme, celle du petit Jésus dans la crèche. Mais quand on lit le passage de Jean dans cette optique, eh bien, on peut très bien être déçu de ne pas y trouver tous les repères habituels de la nativité. Il n'y a pas le recensement, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de verger, il n'y a pas de mage, il n'y a pas d'étoile. Même, on ne parle même pas de Marie ni de Joseph. Il n'y a pas de crèche, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, en fait, il reste l'essentiel. Il nous reste cette déclaration qui est vraiment centrale pour un jour de Noël et qui nous dit « La parole a été faite chair. Elle est devenue homme. Elle a fait sa demeure parmi nous. » C'est vraiment comme ça que Jean parle de Noël. Et lui, qui vient de dire que la parole était auprès de Dieu, que cette parole était Dieu, qu'elle était donc dans ce monde, en dehors de notre monde, un peu comme l'Esprit de Dieu planait au-dessus des ténèbres, eh bien, il nous dit maintenant que cette parole mystérieuse, éternelle, divine, eh bien, elle est venue prendre sa place sur terre parmi nous. C'est le ciel qui rencontre la terre. C'est l'éternité, la divinité de Dieu qui s'incarne dans l'humanité. C'est l'éternité qui vient dans notre temps. C'est ce qui était inaccessible qui devient accessible, qui se révèle. C'est la lumière qui vient dans les ténèbres. Là, est-ce que vous voyez le rapport avec Noël ? Il faut vraiment comprendre, mais on ne peut pas comprendre, cette parole qui devient chair, qui devient humaine. C'est vraiment Dieu avec nous. C'est le sens même du nom d'Emmanuel, en Matthieu 1, au verset 23, qui reprend d'ailleurs une prophétie qui était dans Ésaïe, au chapitre 7. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu en notre faveur, Dieu qui veut se réconcilier avec nous. Dieu qui se met à parler le langage qu'on peut comprendre. Dieu qui vient dans le monde. Et quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Je crois qu'il y a encore plus. Parce qu'on pourrait se demander, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça change pour nous ? Eh bien, le passage qu'on vient de lire répond à la question. Il veut nous dire en quoi on est concerné par ce mystère de l'incarnation. En quoi ça change la vie que la parole devienne chair ? Il y a les deux versets, les versets 12 et 13, qui nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, ceux-là qui deviennent enfants de Dieu sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » En fait, cette naissance de Jésus dans l'humanité, c'est aussi la première condition à la possibilité de notre naissance dans le monde spirituel. C'est plus de la naissance de Jésus dont on parle, c'est de la nôtre. C'est de ma naissance, c'est de la naissance de Serge, c'est de la naissance au monde de Dieu, à la vie de Dieu. Et Et c'est ça, en fait, l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle qui nous dit, celui qui reçoit la parole de vie, qui reçoit l'Évangile, est né de Dieu. Celui qui accepte le Seigneur dans sa vie est né de Dieu. Et il peut être appelé enfant de Dieu. Et c'est ça, la vraie bonne nouvelle de Noël. Alors, il y a un mystique allemand du XVIIe siècle qui s'appelle Angelus Silesius. Et vous savez que je n'aime pas les mystiques du tout. Et dans ses écrits, il y a une phrase qui m'a intéressé, dans laquelle il disait « Le Christ pourrait naître 1000 fois à Bethléem. S'il ne naît pas dans ton cœur, ça ne servirait à rien. » Alors, je n'aime pas les mystiques, j'ai toujours peur que ce soit une déformation humaine de la révélation que Dieu donne, mais là, je trouve que ça sonne juste. Peut-être que c'était vraiment quelqu'un de spirituel. Et ça montre bien la difficulté d'exprimer clairement et rationnellement cette réalité. Mais c'est une réalité que Dieu nous demande de vivre. Si Christ ne naît pas dans notre cœur, ça ne sert à rien. Et le sens même du fait qu'il soit venu dans le monde, qu'il soit venu naître dans le monde, sous la forme d'un homme, eh bien, c'est qu'il naisse aussi dans notre cœur et qu'il nous donne sa vie. Et ça, c'est une réalité qu'il faut vivre. Parce que le Seigneur se révèle au cœur et pas à l'intelligence. Il demande qu'on lui fasse confiance, pas qu'on analyse et qu'on comprenne. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Christ, le Rédempteur de l'humanité, le Sauveur du monde, est venu de la manière la plus modeste qui soit, comme un nourrisson. Pas comme les dieux des religions antiques, vous savez, avec les éclairs, les tonnerres, la puissance, comme dans les films hollywoodiens avec Cecil B. DeMille, où tout tremble parce que Dieu dit « Je suis ton Dieu ». Il aurait pu venir dans toute sa gloire, avec toute sa puissance écrasante, et nous dire « Repentez-vous, vil pécheur ». Mais lui, il a choisi la méthode douce. Il a choisi de venir humblement, par amour, et aussi pour pouvoir parler aux hommes, pour pouvoir s'en faire entendre, pour qu'on comprenne, pour qu'on ressente son amour. Et pour ça, il fallait qu'il soit pleinement homme et qu'il vive comme un homme et qu'il travaille pour vivre et qu'il souffre, sans doute, et qu'il se réjouisse et puis qu'il puisse connaître tout ce que nous, on vit. Et du coup, il est crédible. Du coup, il peut nous appeler ses frères. Il peut nous offrir son pardon. Il peut nous montrer l'exemple. Il peut même nous dire « Fais-moi confiance. Je connais ce que tu vis et même dans la tempête, je suis avec toi. » Et il fallait qu'il soit pleinement homme pour que ce sacrifice ultime ait un sens. Parce qu'il a vraiment payé le prix fort. Il a réellement souffert dans son corps, à notre place. Il nous a fait cadeau de sa vie. Et ça lui en a coûté de séparation avec le Père, de souffrance physique. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'autrement, ça aurait été quelqu'un de généreux qui aurait offert sa vie pour l'humanité. Et ça s'arrêterait là. Il fallait aussi qu'il soit pleinement Dieu, qu'il soit vraiment cette parole de Dieu, qu'il soit de toute éternité auprès de Dieu, cette puissance créatrice par laquelle Dieu crée le monde, pour qu'il puisse aussi nous donner la vie spirituelle, pour que la grâce infinie et imméritée qu'il nous offre soit pleinement efficace, nécessaire et suffisante. Il nous a fait cadeau de sa vie et il nous donne la vie. Vous voyez, c'est ça vraiment Noël. Il donne à tous ceux qui croient son nom le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être une nouvelle personne, de changer de vie,